Nous allons devoir recommencer notre journée, notre demi-journée d'échange. Nous allons juste pendant 1h30 échanger sur ce qu'a été le PDSM dans le secteur de la liberté de la presse et d'expression. Alors, l'activité consiste à recueillir les points de vue de chacun d'entre nous. Donc chacun aura droit au moins au cours de cet échange à maximum 8 minutes de temps de parole qui seront répartis. Alors, nous allons devoir enregistrer cette activité. Et donc, il est question que chacun puisse donner sa gentille. Et par rapport à 4 sous-thèmes, d'abord la situation de la liberté de la presse en général, l'état des lieux de la liberté de la presse et d'expression en République démocratique du Congo. Deuxièmement, nous allons parler de la question du droit d'accès à l'information. En troisième lieu, nous allons parler des médias et des droits civiques. Et en dernier lieu, nous allons voir la collaboration entre les médias et les organisations de la société civile. D'abord, on va se présenter.
Oui, je suis M. Ingo pour le compte des journalistes en Belgique.
Kassou Mathieu Boundé, président de l'UNPC.
Henri Christel Orinja, secrétaire député du collectif 24.
Adéa Mambi Aoum, je suis conseiller au CESAC.
Adélaïe Mboma,
je suis le secrétaire permanent de la Fédération de la vie.
Maître Paul Poyo, consultant internet.
Bruno Bokiki, responsable à la radio.
Sylvestre
Saïd,
membre du programme.
Alors, comme vous le savez, le PDSM est un programme et le programme de développement du secteur des médias qui a bénéficié du financement de l'Agence américaine pour le développement international USAID. Et d'un financement complémentaire de la direction de développement de la coopération suisse. Donc, ce programme a été mis en œuvre par Internews et avec la collaboration de la Fondation Rondel Albany Associates. Il avait entre autres volets l'appui technique, formation, journalisme, gestion et marketing aux radios communautaires, associatives et professionnelles. L'accompagnement du régulateur dans sa mission de pouvoir garantir une information objective et indépendante, la promotion d'une législation favorable au développement des médias indépendants, l'amélioration du débat démocratique dans les médias en favorisant les échanges d'informations entre gouvernements et institutions publiques, sociétés civiles et médias et une meilleure intégration des femmes dans les entreprises médiatiques et dans les débats démocratique au travers des médias. Les aires d'intervention du PDSM se sont déroulées en deux phases. La première phase de 2011 à 2015 qui concernait plus de 5 provinces, le Sud Kivu, le Maniema, le Bandundu, le Katanga et Kinshasa. La deuxième phase, 2016 à 2017, visait 13 provinces, le Nord Kivu, la Tchopo, le Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental, l'Omami, Kwilu, Lualaba, Olomami, Tanganyika, Okatanga, Sud Kivu et Équateur. Parmi les partenaires de mise en œuvre de ce programme, Internews a collaboré avec la Fondation Hirondel, Albany Associates, l'Union nationale de la presse du Congo, Journalistes en danger, la Fédération des radios de proximité du Congo, l'Union congolaise des femmes des médias. Partenaire financier, elle a eu deux partenaires, l'agence de l'USAID et la DDC. Les activités du PDSM se sont principalement axées sur la formation et l'encadrement des professionnels des médias, le renforcement de la viabilité financière, les programmes pour stagiaires et bénévoles dans les radios partenaires du PDSM, l'organisation des tables rondes, appui technique, création des radios Congo Cher, création du centre, des centres de ressources des médias, l'octroi des petites subventions aux journalistes, aux radios et aux réseaux des médias communautaires, l'appui au plaidoyer des organisations professionnelles et de la société civile pour une meilleure protection de la liberté, l'appui aux réseaux et associations des médias, la contribution de la participation de la femme dans les médias et par les médias, et enfin encourager la participation de la communauté au sein de la radio. Telle est la brève présentation du PDSM qui a cheminé avec, avec vous durant les 7 ans. Et donc nous voulons recueillir vos avis par rapport à ce qu'était le PDSM. Mais avant tout, nous aimerions connaître l'état de l'association de la liberté de la presse et d'expression aujourd'hui. Vous avez la parole.
À tout honneur.
À tout honneur, le président de l'Union nationale de la presse du Congo.
Bien, merci beaucoup. En quelques mots, je vous dirais que si au niveau de Kinshasa, on sent que les journalistes font leur travail en liberté, ce n'est pas le cas en province où il y a des petits dictateurs qui, pour un oui ou pour un non, ils arrêtent les journalistes et l'ANL est instrumentalisée. Et même ici à Kinshasa, j'ai constaté aussi que la plupart des journalistes s'auto-censurent. Ils ont peur de prendre des engagements et ceux qui le font avec beaucoup plus de vigueur sont arrêtés ou menacés. D'une manière avancée, c'est ça la situation générale. Donc vous avez deux pans de la liberté de la presse.
Bonjour.
Au niveau de Kinshasa et au niveau de la province. Donc nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge.
Lorsque nous ne sommes pas encore sortis, elle en s'agit.
C'est d'une manière avancée et d'une manière générale.
Nous avons un journaliste en danger qui fait le quotidien de la promotion et de la défense de la liberté de la presse. L'état des lieux de la société de la liberté de la presse et de l'expression. L'application du rapport.
À mon avis, il n'y a pas vraiment la liberté de la presse. Surtout si on se réfère du rapport que j'ai là publié. Donc les journalistes sont toujours menacés quand ils diffusent des informations partout, presque en République démocratique du Congo. Donc je crois que, en tant que des organisations, on doit se battre pour lutter. Vraiment, quand même on doit d'accès à l'information, quand même on n'est pas encore arrivé là-bas, mais de manière générale, il y a vraiment un travail à faire là-dessus concernant la liberté de la presse.
Un travail à faire, les régulateurs, je ne sais pas si il a un mot à dire, qui
a observé. Bien entendu, l'état de la liberté de la presse. N'est pas lié que à la pratique, elle est également liée au contexte et au cadre législatif qui régule la presse. Je crois que les lois telles qu'elles sont faites, telles qu'elles sont appliquées aujourd'hui, semblent les plus cadrées vraiment avec la réalité. Les gens ont besoin de beaucoup plus d'espace de liberté, mais ça doit être normalement encadré dans les lois. Parce que chaque fois qu'il y a un problème, on recourt à la loi qui est devenue presque obsolète pour pouvoir réprimer, ainsi de suite. On justifie. Et à ce moment-là, ça devient difficile de dire qu'on est en faute, que ceux qui en font la liberté sont en faute, parce qu'ils sont basés sur des lois qui existent. Je crois que le plus grand travail, en notre sens, comme éditeur, c'est d'abord d'abonder ces lois-là, pour qu'elles fixent ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. À ce moment-là, on peut dire, voilà, quand quelqu'un est en faute, on peut dire qu'il est en faute, parce qu'aujourd'hui, parfois, c'est, on prend une loi ou une disposition qui est déjà obsolète par rapport à la vérité et on la fait un peu sur les gens.
Peut-être que les personnes qui vont intervenir vont aussi prendre l'aspect, les régulateurs insistaient sur le cadre légal. Pourquoi est-ce que depuis tant d'années, le cadre légal ne s'améliore toujours pas? Le temps de la part du régulateur qui ne fait pas d'efforts vers de la société civile, vers l'innovation aussi immédiate, pourquoi c'est présenteur?
Oui, merci. Moi, je pense bien que avant de parler de la question du cadre légal, vous permettez de mettre un petit mot par rapport à la question principale sur la liberté de la presse et la liberté d'expression en RDC. Du coup, quand on voit les nombres de médias qu'on a ainsi de suite, les gens peuvent dire qu'il y a cette liberté parce que les gens créent tous les jours les médias. Quand on voit tout ce qui fleurisse sur la toile, au niveau des médias sociaux, ainsi de suite. Mais le problème qui se pose, est-ce que peut-on parler réellement de la liberté lorsqu'on sait que chaque organe de presse a sa ligne éditoriale et laquelle ligne est dictée généralement par le propriétaire de l'organe, qui du reste c'est un politicien, parce que la majorité des organes de presse que nous avons, c'est pour les hommes politiques. Et du coup, le journaliste est condamné de vivre dans ce contexte-là où il ne peut pas s'ouvrir et user de lui-même de sa en autonomie de pensée, parce que quelque part, il y a une code et tout ça qu'il doit respecter. Et c'est là où nous pouvons dire que la liberté de la presse pose problème, parce que le journaliste lui-même, en tant que professionnel, ne sait pas se mouvoir et faire des choses en tant que tel, et par conséquent, s'il le fait en tant que tel, il y a des pressions. Bien entendu, ça fait des années maintenant, on n'a pas de cas d'assassinat des journalistes ces derniers temps, mais il y a quand même des inquiétudes, des arrestations, des intimidations, ainsi de suite. Alors, quant à la liberté d'expression, parce que nous, au niveau du collectif 24, en plus de l'accès à l'information, nous voyons la liberté d'expression. Parce que lorsqu'on accède aux informations, c'est pour exprimer son opinion. Mais cet aspect aussi, la liberté d'expression, ce n'est pas seulement le fait qu'on parle devant les micros comme maintenant, mais c'est aussi la question que quelqu'un puisse s'exprimer de manière libre son opinion sans pour autant être inquiété. Mais il y a plusieurs manières de s'exprimer. Mais malheureusement, toutes ces manières de s'exprimer dans notre pays, ce n'est pas respecté. Bien sûr, on va dire que les gens passent à la télé jour et nuit parler de ce qu'ils pensent, mais par après, il y a toujours des répressions. Et d'autres formes de liberté d'expression sont les manifestations publiques. Mais lorsqu'on sait que dans ces pays, contrairement à l'article 23, tout comme l'article 26 de la Constitution, on ne peut pas illégalement, sans même une loi, sans même une décision officielle qui justifie l'état de la situation, on interdit toutes les manifestations publiques, surtout de l'opposition comme de la société civile. C'est comme pour dire que la liberté d'expression pose énormément de problèmes et c'est vraiment inquiet. Par rapport au cadre légal, on sent qu'il y a quand même des lois qui existent mais qui ne sont pas bien respectées. Bien sûr, la loi sur la liberté de presse est devenue obsolète et que jusque-là, ça traîne toujours au niveau du Parlement. Vous avez la loi relative à l'accès à l'information qui peut donner même aux journalistes cette latitude-là de faire des recherches et parler avec toutes les responsabilités étreintes. Vous avez la loi sur les manifestations publiques qui peut aussi faciliter cette manière de, que les gens s'expriment. Mais les pesanteurs, ils sont plus politiques. C'est plus politique et compte tenu du contexte actuel. Alors, on a l'impression que si ces lois-là sortent maintenant, c'est comme si se jetait du boom. Et voilà pourquoi les politiciens prennent ces droits fondamentaux en otage, le droit de la liberté d'expression, liberté d'accès à l'information.
Ok, merci. Alors, on va prendre aussi des avancées par rapport à l'association de la presse et la liberté de la presse. Si on prend les derniers quinquennats, donc on prend 2010 à à 2018, est-ce qu'il y a des avancées quand on voit le contexte de 2010 et aujourd'hui? Maître Perrault, vous pouvez dire quelque chose? Des avancées?
Bon, oui, il y a des avancées dans une certaine mesure. Parce que s'il faut faire un bond en arrière, il y a 5 ans, on voit dans les échanges ou dans l'expression libre, je pense beaucoup plus le côté interaction entre les hommes de médias et les politiques. Ils sont beaucoup plus expressifs, ils sont beaucoup plus audacieux. Parfois, lorsque vous êtes regardé une émission, vous voyez qu'ils n'ont pas tellement assez de manières. Ils s'expriment, quelles que soient les chaînes, quelles que soient les tendances. Ça, je pense qu'il y a une avancée. Mais au même moment, il y a un rebond. Vous savez qu'il y a un recul. Compte tenu du contexte, je pense que ça a été dit. Lorsque on veut aller au-delà de ce qui est connu, au-delà des faits, au-delà de ce qui est officiel, c'est là où maintenant le problème se pose. Je pense que lorsque nous parlons de la liberté de la presse, je crois que la liberté de la presse, justement, touche ces non-dits, les éléments qui viennent au-delà des faits. Quand vous regardez aujourd'hui ailleurs, sous d'autres cieux, les journalistes savent que même s'ils parlent, il n'y aura pas de représailles. Ça dépend aussi des matières. Mais en tout cas, pour ceux qui le concernent, vu le contexte, même s'ils peuvent s'exprimer sur ce qui est connu, mais quand ils veulent aller au-delà de ce qui est connu, c'est là où la liberté elle est restreinte. Je pense qu'à la fois, il y a une avancée, à la fois, nous avons reculé peut-être de 5 ans. On est dans un régime, je ne parle pas du régime politique, je parle du contexte, un contexte de terreur. Pas seulement pour la population, mais aussi pour les journalistes. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Et lorsqu'on évolue dans un tel contexte, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est vraiment dans une liberté telle que.
Oui, M. Adelin.
Oui, c'est dans les mêmes ordres d'idées, mais il y a un autre aspect qu'il faut souligner. C'est vrai, il y a des avancées, telles que Maître Vénézé a soulevé, mais le contexte aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de clubs d'amis dans ce qu'on appelle l'avancée, qui est le débat propre. Vous vous rendrez compte que la plupart des émissions et débats, ce sont les mêmes personnes, les mêmes invités. Au point, je me disais finalement, la plupart sont devenus des co-présentateurs, au lieu d'être des invités. Et dans ces clubs d'amis, pose-moi la question que je t'ai donnée. Alors, on a comme l'impression qu'on fait des sensationnels, mais en fait, ce sont des choses déjà préparées. Comme je vais dire ceci, tu vas me poser telle question, ça me permettra de dire cela. Vérifier les ministres, ils ne sont interviewés que par 2, 3, 4, 5. Ce sont les mêmes personnes. Aller vers les hommes politiques, ils sont reçus sur les mêmes plateaux. Avec... C'est plus les clubs d'amis pour s'exprimer. Alors là, il n'y a pas d'étude que des vrais débats où on va au fond.
Oui, madame Sylvestre.
Ah oui, moi je vais aborder dans le même sens que le collègue pour dire que pour moi, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'avancée. Le fait qu'un journaliste qui n'arrive pas à dire ce qui n'est pas dit tout haut, je crois que ce journaliste est limité dans cette analyse. Parce qu'il ne doit pas seulement s'arrêter sur les faits, il doit aussi aller au-delà, donner les noms de ces faits-là. Mais quand, en donnant les noms de ces faits, ces journalistes-là se sont menacés, se sont réprimés, moi je crois qu'il n'y a pas d'avancée.
Madame Elisabeth.
Ce que je voulais surtout souligner, c'est qu'il n'y a pas que au niveau des journalistes que cela se pose. Moi j'ai vécu un cas. Je demande à un sénateur de témoigner sur quelque chose de banal. Mais parce qu'il ne me connaît pas, « Ah, madame, est-ce que vous pouvez repasser tel jour ?» Je repasse, c'était pour me permettre d'aller demander à un autre collègue. « Ah non, il faut surtout pas oser. » Et pourtant, c'était une question d'actualité aussi simple, qui n'était même pas polémique. En cela, est-ce qu'on peut vraiment parler d'avancée? C'est comme disait Adrien tout à l'heure. Si vous ne faites pas partie de tel club, de tel consortium, il vous est difficile d'accéder à l'information.
Ok, après l'information va revenir, Bruno.
Oui, c'est pratiquement dans la continuation. J'estime que c'est du surplace. Puisque Maître l'a dit, il dit nous avançons, elle dit nous avançons, mais en recul. C'est du surplace. Ça veut dire que vous avez un club d'amis, et ceux-là ont forcément des entrées par rapport à nos politiques, à nos autorités, et quand ils se présentent devant eux, et facilement ils sont reçus. Facilement les interviews sont accordées. Mais quand ce sont des médias comme nous autres, une radio qu'on ne connaît pas, évidemment, elle se demande c'est quel média, ça vient d'où, c'est qui les propriétaires, ainsi de suite.
Oui, bon, merci. Effectivement, c'est le président là, c'est comme la maman venait de dire. Les questions, même lorsque le président évoquait les questions des faits, sans sacré, ainsi de suite, ça, ce sont des principes. Mm-hmm. Mais il faut aller sur le terrain. Mm-hmm. Et sur le terrain, c'est autre chose. Tenez, un journaliste, j'arrive à l'air ici. Le journaliste veut parler, il veut que j'intervienne. Mais du coup, on dit, ah, lui là, ne peut pas passer en direct. Alors, allez comprendre. Ou du coup, vous demandez à quel RTNC, une dame, il dit, mais moi, je mérite t'inviter. Mais tu dois s'enlever ton langage, tu es trop direct. Hein, et que ça peut me créer des problèmes. Donc, vous voyez, on a des journalistes comme ça, même au niveau de l'RTNC, TD50, ainsi de suite, qui, le fait seulement d'inviter quelqu'un, ça pose problème. Il y a certains, le fait seulement d'aller couvrir la manifestation de l'opposition, pose problème. Car s'il faut parler d'avancée, on a eu quand même quelque chose dernièrement où un journaliste était suspendu, c'était pas assez ça. Hein? Donc, au lieu que, comme d'habitude, ça passe au niveau du tribunal pour qu'on le cancelle, quand même, on sent que maintenant, les journalistes commencent à être aussi jugés par ses propres pairs, avec des sanctions, donc par rapport au combat sur les délits de presse, ainsi de suite. Ça, c'était quand même un bon signal, quand bien même la décision était ce qu'elle était. Mais c'était déjà un point de voir que ce n'est pas auprès du tribunal, mais c'est auprès de ses pairs. Donc, dans ce sens-là, on peut parler un peu d'avancée. Mais il y a encore beaucoup à faire. Et pour faire tout cela, il faut que la loi sur la liberté de la presse soit votée pour que plus tard, même les ministères des médias puissent disparaître.
Ok. On va prendre vous et puis on va terminer par le président.
Oui, ce que je voulais dire, c'est ceci. Quand il n'a pas été à l'heure, j'étais heureux parce que quand on parle d'avancée, les avancées peuvent être liées à plusieurs paramètres. Mm-hmm. Première avancée, c'est la pluralité aujourd'hui. La pluralité, elle est importante parce qu'elle est pluralité d'opinion. Ça veut dire l'un pas de l'opposition, l'autre pas de ceci. Cette pluralité, c'est déjà une avancée. Le fait que les gens peuvent s'exprimer en ayant leurs propres opinions sans qu'on les arrête. Ça veut dire que CCTV peut dire le contraire, c'est qu'a dit Télé 50. Ça ne pose pas un problème. Enfin, ce n'est pas un problème pour quelqu'un peut parler. Mais là où je vois qu'il y a le plus grand recul, c'est dans la qualité des professionnels des médias. Parce que des gens comme les Bourrières ne peuvent pas exister dans un pays tel que le nôtre, parce que ce qu'il fait, ce n'est pas du journalisme. Je m'excuse beaucoup. C'est dans la qualité, avant, lorsque celui qui est par exemple avec le président était journaliste sportif, il l'est toujours parce qu'il est dans les instances, il ne pratique plus comme il pratiquait avant, ils avaient une éthique qui faisait que chez eux, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire. Mais aujourd'hui, quand vous appelez joueur sportif par exemple, parler, reporter un match, mais c'est vraiment de la rigolade, quoi. Je crois que ce qu'on a beaucoup reculé, c'est dans la qualité du professionnel des médias. La loi qui avait fixé les cadres pour entrer dans les métiers est devenue obsolète. C'est pourquoi elle doit être révisée. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se lever un matin et déclarer qu'il est journaliste. Mais la qualité du travail qu'il donne, ce n'est pas ça qu'on attend. Ce qui fait que tout ce qu'on peut entreprendre pour pouvoir aller de l'avant est parfois bloqué parce qu'on regarde, mais on va donner ces espaces de liberté à qui? En tout cas, c'est ça l'argument qu'à un certain moment, les hommes politiques ont avancé. Je ne dis pas qu'ils ont totalement tort. Ils n'ont pas totalement tort parce qu'il y a aussi des gens à qui on donne cette arme-là que sont les médias, mais qu'est-ce qu'ils en font? montrer le sang, montrer des choses comme ça. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, c'est tout. Mais on laisse faire ces gens-là au nom de la démocratie. Non, non. Chaque loi a ses normes. On ne peut pas laisser un avocat qui n'a pas la qualité ou un magistrat qui n'a pas la qualité, comme on vient de le voir, continuer à exercer parce que c'est la démocratie. Non, non, non. Chaque métier a ses propres normes.
Président, pour se conclure, c'est...
Merci. Je voudrais aussi dire, Henri, que la RTNC ne peut pas être comparée avec les autres médias. La RTNC est un cas à part. Ce que fait la RTNC, c'est de l'anarchie. Franchement, je le dis, je l'ai toujours répété, on m'a toujours condamné pour ça, mais j'ai dit que c'est de l'anarchie. La RTNC est un média public, mais qui est aujourd'hui privatisé par le régime en place. Ce n'est pas normal. Vous et moi, nous tous ici, nous payons les impôts, d'une manière ou d'une autre. C'est grâce à des impôts qu'on équipe la RTNC, qu'on paye les journalistes de la RTNC. Mais si aujourd'hui un pouvoir arrive, il monopolise, il prend pour son propre compte ce média, ça, c'est, j'appelle ça de l'anarchie et du désordre, ça ne peut pas être comparé. Par contre, les Télé 50, les, comment on appelle, Congo Web et tout ça, ce sont des médias privés des particuliers. Un particulier qui crée son média pour des raisons qui sont propres. Mais la loi dit aussi que à ce média-là, il faut qu'il y ait un professionnel de médias comme directeur de programme ou directeur de publication. Pourquoi ? C'est pour qu'il veille au contenu, à la déontologie, et que tout aille comme il se doit. Même si on doit parler de lui, mais que le journaliste sache que si je dis ça à ce niveau ici, je viole la loi. Et si je viole la loi, l'UNPC derrière, le CESAC est derrière. À partir de ce moment-là, il pourra équilibrer le travail qu'il fait et faire comprendre à son responsable. Et si le responsable ne veut pas l'écouter, la monétisation se partit. C'est plus simple. L'entrée dans la profession, la loi existe. Mais ce n'est pas que parce qu'elle est obsolète, non. Mais elle n'est jamais appliquée. La loi vous dit que pour être journaliste, il faut avoir fait au moins 6 ans de journalité. Et passer au recrutement. Qui recrute par concours dans ce pays? Je crée mon média, je prends mon neveu qui a fait 2 ans de cycle d'orientation, j'ai l'initié et puis pouf, il devient journaliste. Ça pose un problème. Et Molière, et c'est là le lieu d'interpeller ce sac. C'est que fait Molière. Quand vous vous reprochez à Mbalemba, il va vous dire non, 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 président, moi je ne suis pas journaliste. Mais vous n'êtes pas journaliste, vous parlez sur le média en quelle qualité? Vous avez même une émission. Hein? Vous êtes qui? Il dit non, 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 moi je suis
acteur social.
Pardon? Acteur social, voilà. Moi je me dis, comment on peut vous allez prendre. Vous faites, ce que vous faites là, c'est des reportages. Hein? Et puis, comment vous pouvez présenter des gens morts, du sang? Mais la pudeur ne l'autorise pas. Non. Mais avant tout, nous n'avons pas le pouvoir de l'interdire, si ce n'est le CESAC et surtout l'État. Or, comme l'État n'existe plus dans ce pays,
nous sommes dans la zone. La responsabilité est partagée. Donc, abordons le deuxième point par rapport à la question de l'accès à l'information publique. Ça fait 8 ans que le plaidoyer est en cours, 2009. Internews a rejoint le plaidoyer en 2011. Alors, on aimerait savoir de 2011 à 2017, est-ce que la question du droit d'accès à l'information publique a-t-elle évolué ou bien cette question reste suspendue?
Je pense vraiment que Maître qui conduit, avant que Henri qui conduit un peu les débats sur ce niveau-là intervient, moi je voudrais dire que je vais revenir seulement au cadre légal, parce que c'est une notion qui est entrée chez nous très en retard, qui n'était pas prise vraiment en compte dans l'ancienne loi, qui, malgré les défaillances, a quand même beaucoup de choses à l'étang. Ce n'était pas vraiment prise en compte dans cette ancienne loi. On a évoqué un peu comme ça, n'est-ce pas, à la liberté d'aller, mais ce n'est pas très précis. Mais il faut vraiment que ce cadre légal soit aujourd'hui mis en place. Ça va permettre de voir si l'application est facile ou non. Mais tant que déjà ce n'est pas prévu, c'est difficile de pouvoir évaluer. Je peux vous dire que ça n'existe même pas, parce que ce n'est même pas prévu. Ce sont des notions nouvelles qui sont arrivées. On a pris conscience que c'est une nécessité. C'est pour cela que ce cadre légal-là, il est important. Il faut que cette loi-là passe. Je crois que ça sera le préalable à l'évaluation future pour voir si c'est bien appliqué ou ce n'est pas bien appliqué.
Oui, le collectif 24 qui réunit les ambassadeurs de la société civile pour la question de la mise en œuvre de l'article 24 de la Constitution. Sept ans après, huit ans après, est-ce que l'accès des journalistes et des citoyens à l'information publique est-il satisfaisant?
Bon, parler de la satisfaction, c'est du coup aller à la prison, parce qu'on n'est pas satisfait étant donné que jusque-là, la loi n'est pas encore votée. Elle a été travaillée pour la seconde lecture au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, ça reste que le bureau puisse se programmer question de vote. Malheureusement, nous avons vu le programme de la session extraordinaire. Cette loi-là n'est pas reprise parce que ce n'est pas prioritaire pour les politiques qui ont peur de cette loi, tout en pensant que la loi viendra les dénuder, ainsi de suite, et que ce n'est pas le moment. Les avancées, bon, je peux dire oui et non. Oui, dans ce sens que, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, dans la législation congolaise, l'expression « accès à l'information », droit d'accès à l'information n'existait presque pas. On parlait plus du droit à l'information, qui est différent du droit d'accès à l'information. Parce que droit à l'information voudrait dire que nous sommes là, nous parlons en direct et que personne ne peut nous couper et je dois accéder, je dois avoir l'information. Et là, du coup, vous voyez que le législateur, avec cet esprit-là, il passe directement sur la liberté de la presse. Donc, c'est une nouvelle thématique pour qui libéralise, c'est-à-dire qui démocratise ces droits-là, en ajoutant les droits d'accès à l'information. Et si nous prenons depuis que Internews a rejoint le groupe pour appuyer les plaidoyers depuis 2011, si vous prenez les différentes lois actuellement que le législateur est en train de prendre, il y a l'expression droit d'accès à l'information qui est revenue, ce qui n'existait pas avant. Dans certaines lois qui sont en train d'être votées, la loi sur la protection de la nature, l'environnement, dans les codes miniers, ainsi de suite, et commence à utiliser cette expression-là que toute personne a droit d'accès à l'information et contraint même à ses services de donner l'information. Mais le problème, c'est que il n'y a pas de mesures concrètes. Parce que c'est juste un article 5, article 8 d'une loi qui évoque et qui demande au cas de refus de justifier si vous prenez la loi de la protection de l'environnement, l'article 5, mais il n'y a pas de contraintes. Bon, bien entendu, avant, la loi sur les archives publiques donne aussi cette liberté. Malheureusement, là, ce n'est que les archives. Bon, donc, s'il faut aller visiter les archives publiques, mais est-ce que nos archivistes au niveau national ont cette capacité-là de regrouper toutes les informations dans les archives publiques pour que les gens aillent visiter? Mais l'innovation de cette loi, c'est que, au lieu de se limiter seulement avec la loi sur les archives publiques, ou aller là au niveau de la Bibliothèque nationale pour fouiller, ce n'est que là où on vous envoie, mais cette loi-là donne la liberté à toute personne, partout où il est et à n'importe quel niveau, de demander les informations. Et en même temps, donne les procédures et même les mesures d'accompagnement et les mesures disciplinaires au cas où cela n'est pas respecté. Et c'est là ce que cette loi-là vient innover pour faire de ces droits une contrainte et pour démocratiser cela. Donc, jusqu'à aujourd'hui, l'accès à l'information pose problème parce que je ne vois pas un journaliste qui va aller fouiller l'information et qu'il accède facilement. Il faut être un étranger et comme le Congo, parfois il y a ce complexe des étrangers pour qu'un journaliste étranger puisse accéder à certaines informations, mais congolais, ça devient difficile.
Quelles sont les stratégies, société civile, bon, les médias, les différentes initiatives, stratégies qui sont mises en place pour améliorer ces questions de l'accès à l'information, de l'opacité d'accès à l'information publique?
On est déjà sur un dossier très important, très urgent, c'est la loi. Il faut qu'elle soit votée à l'Assemblée et qu'elle soit promulguée. Et que le plaidoyer continue pour qu'il y ait des mesures d'application de cette loi. Et à partir de ce moment-là, à notre niveau, avec le collectif 24, nous allons mener des actions pour vulgariser cette loi et ensuite essayer de suivre comment elle est appliquée à tous les niveaux des services publics, et ainsi de suite. Mais à ce niveau, je crois que il est difficile de savoir ce qu'on fait pour l'accès à l'information. Aujourd'hui, il faut réunir nos efforts pour qu'au niveau du Parlement, à défaut de maintenant, qu'au mois de mars, au moins, on puisse aligner cette loi pour qu'elle soit votée, adoptée et puis promulguée par le président.
Je vois que la réalité est en face. Qui nous avons comme adversaire par rapport à cette loi? Bon, autrement, je dirais, à qui profite cette loi? Et ça met qui mal à l'aise? Or, celui qui se sent en mauvaise position avec le vote de cette loi est celui-là même qui doit décider sur cette loi-là. C'est ça déjà la difficulté. Mais ce n'est qu'une difficulté, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être surpassé. Nous devons multiplier les plaidoyers. 7 ans durant, on l'a fait, jusqu'à ce que la loi soit prise déjà au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale. Mais vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, le niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale, c'est vraiment un grand écart. La façon de voir les choses avec les sénateurs est différente avec
les députés
qui, pour eux, ne réfléchissent qu'au nom du Sénat que vous connaissez. Écoutez, dans ces conditions-là, sont-ils prêts aujourd'hui quand on leur dit que si vous signez, vous adoptez cette loi, ça veut dire que vous dénudez le chef, on peut aller prendre tout, on peut l'exposer. C'est ça le vrai problème. Peut-être qu'aujourd'hui, il faudra changer de technique pour aborder cette question-là. C'est sur ça qu'on pourra réfléchir. C'est ce qu'on a fait 7 ans durant. Ça a produit à un niveau de fruits et d'effets, puisqu'on est déjà passé d'une chambre à une autre. Mais la méthode qu'on a utilisée pour la chambre haute, nous devons nous dire que ce n'est pas la même méthode que nous devons utiliser pour la chambre basse.
Oui, monsieur.
Moi, je pense peut-être au-delà des actions des plaidoyers, on pourrait aussi demander une audience, peut-être auprès du président de l'Assemblée nationale, lui expliquer les lois et si possible dans l'année prochaine, mars de l'année prochaine, si on peut aligner la loi pour les débats.
En mars, ça sera toujours le secrétaire général de la majorité qui sera président de l'Assemblée nationale.
Je crois que, comme le soulignait Henri Christin lors du Café Presse, que ce plaidoyer est allé plus haut avec la récente visite de Madame la Présidente de la Commission africaine des droits de l'homme, qui était le passage de ceci pour cette question d'accès à l'information. Mais comme a dit M. Adelin, les interlocuteurs en face, ce sont eux qui constituent un peu de temps. On avait cru que ça allait donner quelque chose après sa visite.
Mais pour moi, vraiment, excusez-moi, pour moi, vraiment, les organisations comme Interlouse, où les ONG se trompent beaucoup sur ces histoires, non, Ligue africaine des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire dans un parlement où les gens se réveillent matin pour dire qu'on ne va pas faire ça? Ça ne va pas vous dire. C'est vraiment au niveau interne ici que nous devons plus travailler. Au niveau international, il y a des pressions, c'est vrai. Les pressions peuvent être là. Mais dites-moi, les pressions vont faire ça sur 250 députés.
Les pressions n'ont plus d'effet.
On va faire 250 députés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça ne va pas produire des effets. Il faut concentrer les efforts plus au niveau interne. Cela peut porter des fruits si on explique bien. Ça peut-être que un jour, peut-être pas aujourd'hui, on a déjà fait 7 ans. Peut-être que ça sera au bout de la 15e année qu'on va obtenir. Je ne sais rien. Mais moi, je parle, je suis réaliste. Peut-être que c'est au bout de la 15e année. Parce qu'on a lutté la loi l'autre loi sur qui devait remplacer la loi sur la presse a même été déposée.
Oui.
Elle a été déposée, n'est-ce pas, bon, elle est forme.
Oui.
On n'en a même plus jamais parlé.
Oui.
On dit qu'on va pour moi, jamais. Alors que les voix, c'est plus là-bas. On sait que ouais, c'est tout. Ça veut dire que je crois que les efforts qui sont plus au niveau interne, peut-être qu'il y a une dynamique interne à un moment qui va permettre à ce que ce genre de choses puissent bouger.
Mais pas avec ce Parlement.
Compter avec les gens, là,
les assemblées,
la Cour africaine et tout.
À l'époque, pardon, qu'on a fait le plaidoyer par rapport aux radios communautaires, on est allé à l'Assemblée nationale. Parce que là, c'était l'idée de freiner, c'était un chapitre sur les radios communautaires. Il y a un politicien qui nous a dit ça vous prendra du temps, puisque la situation actuelle nous arrange. Ce que vous cherchez, vous, là, c'est pour nous mettre en difficulté. Alors c'est un combat. Soyez préparés que ça vous prendra du temps.
Oui, maître Perrault qui a aussi
parlé. Nous continuons, sinon il ne serait pas ici.
Oui, effectivement, je veux rebondir justement ce que sur ce que le collègue a dit tout tantôt. Je suis quand même satisfaite, même si la loi pourrait être votée ou promulguée d'ici 15 ans. Mais je crois qu'on aurait atteint le but. Je crois que l'histoire de cette loi vient de loin, comme vous l'avez dit, depuis 2009. Le contexte était un peu assez flou. On se disait, mais dans ce contexte, c'était impossible quasiment de pouvoir faire passer cette loi. Mais aujourd'hui, le Sénat l'a votée. C'est autour de l'Assemblée nationale. Je me dis nous sommes en train d'avancer, peut-être à pas de tortue, mais nous avançons quand même. Le contexte peut changer. Nous l'avions eu quand il y a eu ce dérèglement au niveau de la majorité avec le G7. Pour certains intérêts, il fallait que d'autres personnes fassent passer cette loi. Elle est passée. On ne sait pas ce qui peut advenir demain. Peut-être que nous le pensons dans 5 ans. On ne sait pas ce qui peut advenir. Nous pouvons obtenir la même loi avec les mêmes personnes, avec les mêmes députés. On ne sait pas. Donc moi, je reste optimiste. Je me dis que les intérêts sont interchangeables. Les opposants d'aujourd'hui peuvent devenir des partisans de demain et vice versa. Donc tout peut changer, les donnes peuvent changer. Quitte à nous de continuer le combat et d'espérer, on dit toujours que l'espoir fait vie. Nous espérons que.
Ici, l'espoir fait tuer, madame.
Nous espérons, parce que dans tous les cas, c'est une question aussi de choix politique. Ils le savent. Ils peuvent nous la donner, ils peuvent nous donner cette loi aujourd'hui. Il y aura maintenant la problématique des mesures d'application. Comprenez, on l'a vu avec notre loi. La société civile, on s'est battu pour la loi sur les hydrocarbures. Pendant des années, finalement, ils l'ont donné. Et puis après, ça devient pour obtenir le règlement d'hydrocarbures. Ça commence un peu à patauger. Ils savent toujours où ils peuvent nous bloquer. Mais ce qui est important, c'est d'aller d'une victoire à une autre. Je pense que restons confiants. Poussons encore les choses. Nous avons des alliés, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, au niveau de l'Assemblée nationale. Et je pense que ces gens-là, au-delà des intérêts privés ou personnels, je pense qu'ils comprennent quand même le bien fondé de cette loi. Peut-être qu'à un moment donné, dans le même contexte, les choses peuvent être en faveur.
Ok, merci. Alors, la question du droit d'accès à l'information nous pousse à savoir l'information publique qui est comme l'un des droits de l'homme, la liberté, toute personne a droit. On parlait du droit du savoir, comme le dit l'UNESCO. Alors, est-ce que vous pensez que les citoyens congolais aujourd'hui connaissent ces droits? Est-ce qu'ils arrivent à promouvoir ou bien à réclamer ces droits lorsqu'on voit les citoyens comme les citoyens ordinaires dans le contexte aujourd'hui de la RDC? La question des droits de l'homme. Oui, Président.
Sincèrement, je dis que il n'y a pas plus naïf que le Congolais. Le Congolais ne connaît pas ses droits. Même les plus élémentaires. Il se laisse aller par n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance, et il trouve que c'est normal. Donc, à ce niveau-là, pour directement répondre à votre question, le Congolais ne connaît pas ses droits.
Oui,
et il ne faut qu'un effort pour le connaître.
Oui, bon, merci. Moi, on a terminé avec les premiers points. Je voulais ajouter quelque chose par rapport aux stratégies pour la loi. Étant donné que le prix d'eau, ce problème, s'il y a aussi baisse, parce que vous constaterez que la température aussi a pu baisser, des pressions, ainsi de suite, et que cette température est baissée par manque de moyens. Parce que les bailleurs commencent à se fatiguer, pensent que la loi c'est quelque chose qu'on peut faire passer dans un mois, et que lorsque ça traîne, ils n'appuient pas. Ce qui a fait que presque 2017, Collectif 24 n'a pas eu de financement. Et ce manque de financement fait aussi que cette chaleur-là, des actions par-ci, par-là pour mobiliser les gens, ça a baissé. Et effectivement, les députés ont senti que bon, ce n'est plus une préoccupation, c'est comme s'ils sont fatigués. Alors, ils mettent aussi sous tiroir. Donc, c'est aussi le moment d'inviter les bailleurs, tout ça, de ne pas baisser les bras et de continuer à appuyer l'action. Alors, tant à la connaissance du droit par les citoyens. Bon, c'est comme le président vient de dire. Du coup, on peut dire que bon, est-ce que les gens connaissent leurs droits? Oui et non. Oui, dans ce sens, c'est que vous abordez quelqu'un et dit mais, ah, mais ça, ce n'est pas un état de droit. Ça veut dire que quelque part, il connaît quelque chose. Mais non, dans ce sens que, à un certain moment, au niveau du collectif d'État, nous avons fait une petite enquête de sondage. Quelle loi vous connaissez? Parce qu'un état de droit, c'est un état où les gens connaissent des lois. Mais en posant seulement la question, même nous avons envoyé les gens, même au niveau du Parlement, les formulaires, même les députés ne connaissent même pas des lois qu'ils sont en train de voter. À tel point que vous connaissez quelle loi? Est-ce que vous pouvez nous donner ne serait-ce qu'un article d'une loi que vous connaissez? Parce que la défense de ces droits, il faut s'appuyer sur un texte. Mais lorsque vous posez des questions, mais personne ne maîtrise. Aucune loi par quelle loi vous dites non, il faut que je puisse fouiller. Alors donc, ça a un problème. Mais pour arriver à ça, ça demande toujours l'éducation, la sensibilisation, la formation pour que les gens s'accrochent à leurs droits fondamentaux. Mais tout ça, du coup, va revenir le problème des moyens. Donc, la connaissance, ce n'est pas seulement les simples citoyens, comme souvent les gens le pensent, mais aussi, c'est au plus haut niveau. Même les ministres, vous posez-lui la question, vous connaissez quelle loi? Vous pouvez nous donner un article d'une loi que vous trouvez, c'est vraiment essentiel pour vous. Mais c'est difficile qu'on vous le cite. Donc, c'est ça le paradoxe.
Oui. Je ne sais pas si je suis en train d'aller au-delà de ce qui a été posé comme question, mais c'est vrai que la loi n'est pas bien connue, mais or, quelque part, vous juristes vous dites, n'est-ce pas censé ignorer la loi. Mais en fait, la question serait, qui est censé vulgariser la loi? Est-ce qu'on le fait? Aujourd'hui, il faut savoir que ça fait partie des responsabilités des partis politiques. Or, les politiciens se réjouissent de laisser la population dans cette situation. Maintenant, ça devrait être relayé par la société civile. Quels sont financés par vous, les bailleurs, dans cette logique-là? Vous n'accompagnez pas dans cette logique-là, mais vous voulez résultat dans ce secteur-là. Non. La loi, personne ne fait la connaître chez lui à la maison, sans qu'il soit en contact avec un document ou un agent de vulgarisation pour lui expliquer ça. La responsabilité est partagée. Orienter aussi les bailleurs d'intervenir, de soutenir, comme les politiciens sont dans cette logique de nous maintenir, si on peut pallier ça avec les sociétés civiles et donner les moyens pour qu'ils arrivent à vulgariser cette loi-là, que chacun arrive à connaître ça. Et même introduire ça dans les programmes de l'enseignement, pour qu'on commence déjà au niveau de l'école primaire.
C'est plutôt par rapport à cette dernière partie que je voulais te dire la même chose. Les ONG aussi, hein, parfois, vraiment, excusez-moi, je suis amer parfois envers les ONG parce que. Il y a beaucoup d'ONG qui reçoivent de l'argent, qui justifient. Justifier, c'est très bien, justifier ça très bien. Mais quand vous allez voir parfois le travail qu'ils ont fait sur le terrain, on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on attendait de ces ONG. L'État est défaillant, mais le phénomène même pas ça, c'est même pas une question. Donc, ceux qui devaient aussi les relayer de l'autre côté, parfois ils ne font pas le travail. Les hommes politiques, n'en parlons même pas. Moi j'ai même peur que ceux qui sont dans l'opposition passent au pouvoir. J'ai une très peur. On a l'expérience du vice-ministre de l'Intérieur. Il n'est plus reste que le roi. Mais ce type-là, c'est incroyable, quoi. Tu ne peux pas lever ton boudoir. Tout ce qui est ici aux manifestations, vous voyez que c'est allumé, lui, c'est lui qui essaie de l'ordre, c'est ce type-là. Enfin, je ne comprends rien. Donc ça veut dire qu'on a un déficit, en fait, un déficit de structure chez nous. Des structures qui devraient faire un travail. On dirait que chacun ne veut pas faire son propre travail, mais il veut que le voisin fasse son travail. J'ai l'impression qu'il y a ces. Je ne sais pas, il faut qu'on imagine une synergie, il faut peut-être multiplier la même action en donnant à tel ONG, mais en donnant aussi à tel autre. Peut-être en doublant les gens, en les mettant, je ne sais pas moi, ça peut peut-être donner des gens, parce que si vous donnez à une seule structure, j'ai l'impression que ça ne donne pas les résultats qu'on attend. Surtout que la masse là, elle est grande. Chez les musulmans, on ne parle pas comme chez les catholiques. Vous donnez à une organisation, le responsable, il fasse qu'il est catholique, il va parler comme les catholiques chez les musulmans, et ça ne peut pas marcher. Ça va marcher. Donc il faut peut-être qu'on puisse multiplier, n'est-ce pas, doubler ou tripler, je ne sais pas.
Alors, on va revenir par rapport à le rôle des médias dans l'éducation civique et l'éducation littorale. Est-ce que les médias sont plutôt, comme on a dit, à la quête des scoops, ou bien dans leur prix des programmes, il y a aussi des programmes d'éducation civique et même d'éducation littorale?
Maître, oui. Entre la théorie et la pratique,
il faut gagner quoi, il faut faire ça.
La réalité aujourd'hui, d'abord les médias, nous disons médias globalement, mais je prends les journalistes, lui, il n'est pas un donneur de leçons. Ça aussi le problème. Il n'est pas expert en tout. Mais il peut faire des investigations. Or, aujourd'hui, la partie la plus difficile dans la presse dans notre pays, c'est l'investigation. Investiguer veut dire acheter son cercueil. Vous voyez dans ce contexte-là, mais en réalité, les médias devraient servir de relais pour ceux qui sont spécialistes dans cette matière-là, pour que ce qu'ils conçoivent, ce qu'ils préparent arrive à destination. Je crois que là, il faudrait plus évoquer l'aspect que vous avez soulevé tantôt, la relation ou le partenariat entre médias et société civile. Si c'est un activiste, si c'est un acteur social, que je reçois dans mon émission pour parler de ça, ça épargne aussi bien les médias que les journalistes. Que de voir un journaliste, lui, se mettre à donner des leçons, comment les gens doivent se comporter, là, il a déjà des problèmes, il est hors sa déontologie.
Maître, j'aimerais vraiment rassembler les deux points, c'est-à-dire le droit, c'est-à-dire la connaissance des droits. Par le Congolais de ses lois, des lois, en tout cas des droits qui sont siens, et le rôle que doivent jouer, que jouent les médias par rapport au véhicule de l'information, des messages, etc. Moi, j'estime qu'il y a une échelle de classification des hommes dans la vie des hommes. Et donc, en partant de cette échelle-là, chacun de nous sait se situer par rapport à ce que lui, il a atteint. Et du coup, les Congolais, tout comme les journalistes, qui est censé véhiculer l'information, et sensibiliser dans une certaine manière, évalue aussi son travail, ou le seuil qu'il a atteint, par rapport aux besoins qu'il exprime. Ce qui veut dire concrètement que, aujourd'hui, les Congolais, tout comme les journalistes congolais, pour faire la nuance, n'est pas en mesure de pouvoir subvenir à ses besoins les plus légitimes. C'est un problème. Les journalistes n'ont pas de subventions, en tout cas les médias n'ont pas de subventions. Et du coup, pour subvenir à des besoins les plus légitimes, les plus, en tout cas primaires, on doit se casser la tête à mille morceaux. Et arriver à véhiculer correctement le message, ça devient un problème. Au vu du contexte aujourd'hui aussi politique, le régime en place qui tient la tête et voudrait à tout prix se maintenir, demander aux journalistes de pouvoir livrer un message qui n'apporte pratiquement rien pour lui. Il essaie d'évaluer évidemment par rapport à son échelle de besoin. Et aux Congolais aussi, La sensibilisation, c'est vrai que c'est un problème. Mais est-ce que ces Congolais-là seraient intéressés de savoir aujourd'hui ce qu'il va manger par rapport à ce que vous lui proposez, de savoir ce qu'il y a de priorité par rapport à son droit, à ses droits, de connaître ses droits les plus légitimes, de connaître ses droits les plus, je ne sais pas moi, légitimes, voilà, je reviens au même mot. Il va essayer de choisir. Ça sera la façon la plus simple de choisir entre le pain du matin et du soir et l'information par rapport à ce droit, les Congolais vont choisir. Et c'est être d'autant plus réaliste que ça. D'où il y a une échelle de besoins sur lesquels.
L'intérêt.
Voilà.
L'intérêt de la survie, comment, prévaut par rapport à l'intérêt communautaire. Alors, on va aller à une autre question en répondant. Vous qui avez collaboré avec le PDSM, est-ce que dans ces activités, le PDSM a-t-il aidé les médias à pouvoir inscrire cette thématique, puisque dans leur grille de programme, à avoir des programmes d'éducation civique et d'éducation littorale, quel bilan faites-vous de la collaboration du PDSM avec les médias pour ce qui concerne les droits de l'homme, les droits civiques et les droits électoraux?
Oui, vous avez c'est une particularité des radios communautaires.
Oui, quelque chose a été fait. Mais c'est comme si on n'a pas pensé à la pérennisation de ce qu'on a fait. Comme si on a rien d'autre. C'est le PDSM qui l'a fait, peut-être pour son rapport par rapport à son cahier de charges, mais j'ai l'impression que le PDSM n'a pas fait ça pour qu'après lui ça continue. Ça demandait un budget, et ce budget-là venait du PDSM. L'activité a eu lieu, on peut diffuser autant de fois et rediffuser, mais dès que le PDSM passe, il n'y a pas de suite. Ça la première difficulté, mais il y en a eu. Et ce que moi j'ai le plus apprécié, c'est ce café presse. Ça a permis de regrouper les gens. Quand je soulevais ce problème de l'apport des médias, je voulais finir par là. Nous devons, pour cette vulgarisation même de la loi, voir comment organiser des débats publics ou des émissions publiques. Puisqu'en pédagogie, on dit l'enfant qui quitte la maison pour venir en première année primaire, il n'est pas du tout ignorant. Il connaît quelque chose, mais d'une façon désordonnée. Tu peux me demander de compter de 1 à 10, il commence par 1, 5, 8, mais fais citer. Et l'enseignant a le devoir d'ordonner ça. Donc, même si nous disons que la population ne connaît pas ses droits, ce n'est pas à 100%, mais peut-être n'arrive pas à bien coordonner ce qu'il connaît. Et quand vous mettez les gens ensemble, vous commencez à lui poser des questions, l'un peut aider l'autre à comprendre mieux ce qu'il ne comprenait pas. Et ça, c'est lors des débats publics, lors des émissions publiques que ces messages peuvent passer. Ces débats publics, ces émissions publiques, on peut les organiser même après le PDSM. Ça ne demande pas assez de moyens. Puisque les médias, nous sommes là, l'espace, nous l'avons. Et si on peut regrouper les gens dans un village pour qu'ils parlent de ça et que le monde soit pour diffuser, ça va demander moins que les cafés presse organisés avec tous les moyens qui, après vous, on ne sait plus le faire. Moi, je crois qu'il faudra revoir aussi la stratégie pour permettre que cette histoire soit payante. Les émissions, on a innové. Il y a des gens qui ont été formés. Ça, c'est déjà un acquis. Que cette personne est capable de rentrer, créer une émission et commencer à l'animer. Mais il faut actualiser les choses.
Ok. Oui. Madame Sylvestre.
Oui, moi, je voulais parler par rapport à l'échange d'expérience qui a eu. C'est que notre association bénéficie de PDSL. Il a mis les moyens pour que le COFEM arrive à réunir les différentes ONG des différentes provinces à travers des formations pour permettre à ces ONG d'aller faire le travail au niveau de la base en ce qui concerne par exemple les questions électorales, les questions de l'utilisation des réseaux sociaux. En résumé, c'est ce que je peux dire par rapport à
Alors, on a relevé la problématique de l'intérêt par rapport à ce qui rapporte les émissions d'éducation civique, des droits de l'homme, d'éducation électorale. Pensons-nous que nos médias pouvaient avoir ne fût-ce qu'un pourcentage réduit des émissions relatives aux droits de l'homme? Ça peut concerner le droit à la santé, le droit à la vie. Aujourd'hui, on a un problème de l'hygiène dans la ville. Est-ce que pensons-nous que les médias peuvent quand même contribuer à l'arrière-pays? Les médias peuvent quand même aider la population à pouvoir se prendre en charge à travers des émissions qui responsabilisent, qui sensibilisent les citoyens. Les régulateurs vont nous aider avec la grille des programmes lorsqu'ils voient. On a des émissions, des médias généralistes et thématiques, et la grille des programmes, combien de pourcentage, il y a une quantité qu'on recommande aux médias, la place des droits de l'homme, des droits civiques.
Bon, à ce jour, je vais être sincère, le régulateur a des sérieux problèmes. Quand je vois que dans le programme, il y a accompagnement du régulateur, je me demande même comment on ne pas accompagner le régulateur, c'est un mauvais moyen. Vous savez, une institution comme le CESA qui a été mise en place en 2011 avec un autre agenda très, très, très éloigné pratiquement, ou un peu éloigné de ce qu'elle faisait là-bas, l'institution n'a pas réussi à fonctionner jusqu'à cet instant, n'a pas réussi vraiment à se mettre en place parce qu'elle a beaucoup de bureaucratie. Ça demande une structuration interne. Ils n'ont pas le moyen de le faire. Je vais être très clair. Et je n'ai pas l'impression non plus que les bailleurs, peut-être que les bailleurs attendent que le CESA vienne un peu, peut-être que ça n'a pas encore tenu entre les CESA, disons les plus CESA aujourd'hui et les bailleurs de fonds, peut-être. Mais dites-vous que si on veut poser vraiment des questions au régulateur sur son rôle, il faut commencer par aider ce régulateur-là, parce qu'il ne sait pas encore totalement structuré. C'est vrai qu'il reçoit les guides des programmes. C'est vrai qu'on les analyse. Mais les guides des programmes sont analysés par rapport au cahier de charges du gouvernement. Le gouvernement a un cahier de charges qui donne pour tel type de médias, voici le pourcentage, voilà le pourcentage. Mais aller vraiment chercher émission par émission, le régulateur ne peut pas le faire. Si on fait une émission sur la santé, qui représente 1%, et qui a une autre émission sur l'éducation. Même si c'est une éducation comme ça, pour le CESA, tout cela est dans une même rubrique, il comptabilise que c'est bon. Mais est-ce que les thématiques abordées à ce moment-là sont des thématiques que l'on cherche? Là est une autre question. Et aujourd'hui, on doit dire que le CESA n'est pas capable aujourd'hui d'aller regarder ses particularités. Il y a une carence en personnel, il y a une carence en structuration, carence en matériel, une carence de représentation dans les provinces. Aujourd'hui, sur 26 provinces, et c'est ça qui n'est que dans 10 provinces, plus qu'il se sera fait 11, encore. Oui, on a des souvenirs à nommer déjà maintenant. Et encore, c'est qui? C'est des gens aujourd'hui qui n'ont pas de bureau et tout, parce que pendant 6 mois, il n'y a pas de fait de fonctionnement. Donc, on ne peut pas avoir une vision globale. Or, c'est type de questions qui aura une vision globale sur les médias. On ne peut pas parler de Kinshasa seulement, ce n'est pas la RDC. Il faut avoir une vision globale sur l'ensemble du pays. Mais à ce jour, il n'est pas possible d'avoir cette vision globale parce que le CESA ne fonctionne pas encore comme une institution telle que cela avait été prévu. Ça va faire 7 ans l'année prochaine. Espérons qu'enfin, avec les élections, on pourra commencer au moins à fonctionner. Voilà une réponse qui donne globalement vraiment c'est. On ne regarde pas vraiment en profondeur jusqu'aux émissions, non. On regarde sur les pourcentages, tels que c'est prévu, quels sont les cahiers de charges que l'on va arriver. Si ça respecte les cahiers de charges, ok.
Henri va prendre la parole et Amélie va clôturer pour ce point.
Oui, bon, effectivement, je pense que les médias constituent, c'est une grande école. Une grande école. Heureusement, on ne sent pas assez d'émissions d'éducation civique. Parce que le problème aussi, c'est quoi? Il faut démocratiser l'information, simplifier aussi. La plupart des émissions, on n'a que des débats politiques. Et ces débats politiques, parfois, c'est un niveau trop élevé. à tel point que le commun des mortels, quand il voit là qu'il y a des discussions, des politiciens qui discutent, et il se dit, mais c'est quoi ça? Et ils vont aller, là il y a les mamboukis, donc c'est du théâtre, la musique, et ils vont aller dans la Molière, parce qu'on va leur montrer les sensationnels, ainsi de suite. Alors qu'on devrait utiliser les mêmes stratégies pour donner l'éducation. Malheureusement, c'est ce qui n'est pas fait. Et même par rapport à la commission des lois, c'est aussi une défaillance. Et nous posons souvent la question, pourquoi notre Parlement n'a pas une cellule de communication? Et si le Parlement a une cellule de communication, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que normalement, c'est le Parlement qui devrait être au premier rang à vulgariser des lois qu'il est en train de voter. On a la RTLC3, qui est la chaîne des institutions. Normalement, c'est là où on devrait trouver des débats. Chaque jour, si telle loi, et on explique aux gens des différentes lois pour simplifier, et ça devrait être une chaîne par excellence d'éducation civique, la RTLC 3. Mais ça devient plus de publicité, ça devient pratiquement comme la RTLC 1. C'est aussi une interpellation au niveau de l'INPC, pourquoi pas orienter les journalistes professionnels par secteur. Parce que cette éducation, les journalistes, même si lui ne va pas parler, mais même pour guider un débat, il doit être du domaine. Pour éduquer, par exemple, sur les finances publiques, mais les journalistes lui-même doivent être outillés sur les finances publiques pour conduire ce genre de débat. Donc, c'est par secteur à secteur qu'on devrait avoir des journalistes spécialisés. Et c'est lorsque vous avez des journalistes spécialisés, ils développent des programmes par rapport à ça, de manière plus simplifiée, tout ça, et ça va aider quand même que la population soit bien informée.
Oui, nous avons vu l'UNPC, je crois, l'année passée, collaborer avec le Bureau Congolais de l'Association des droits de l'homme. Il y a une formation sur le journalisme et les droits de l'homme. Je crois que ce sont des initiatives qui doivent continuer pour devoir renforcer, donner goût aux journalistes qui sont acteurs de la société, qui peuvent apporter des choses à la communauté. Oui, Président.
Merci beaucoup. Je remercie Henri Christian pour ce propos. Effectivement, vous avez raison, l'année même juste cette année, nous avons eu un programme avec le Bureau Congé des Nations Unies aux droits de l'homme pour la formation de nos confrères et aussi pour impliquer les services, parce que également ils ont organisé 3 formations avec les responsables de sécurité au niveau de la police et de l'armée. Et les responsables de sécurité à Démia, une formation spécifique de 3 jours, où nous avons été impliqués dans cette formation. Il est vrai, j'ai senti que même eux aussi avaient besoin de formation. Parce que il y avait un avocat général. Colonel, il y avait un général, je ne sais pas qui, et puis. Mais au niveau du débat, on dirait que j'étais le seul à exposer. Parce que toutes les questions étaient sur la place du journaliste. Et j'ai dit même des choses, et j'ai senti que. Vous m'avez appelé ici pour me menacer, comme ça, quand je vais sortir à la barrière, vous allez m'arrêter. Non, Président, non, on va vous arrêter. Donc, ils étaient très contents, et même quand on est sorti, ils ont compris que. Il y avait beaucoup de choses qu'ils ignoraient. Et parfois, heureusement, il y avait même le général qui est responsable de la réunion. Donc je crois que la formation électorale, quand vous allez à la CENI, il y a un budget pour ça, mais ce budget, qu'est-ce qu'on en fait? Mais ils le détournent, ils mettent en poche, c'est leur carburant et ce qu'ils en veulent. Et vous voulez que les journalistes fassent la formation électorale? Et ce sont les autres qui bouffent l'argent. Non, je pense qu'il faut que, à moins que vous, les partenaires, vous nous aidiez à intensifier cette formation et en ayant toujours à l'esprit que Kinshasa n'est pas la RDC. Nous sommes appelés à aller partout pour la formation. Je vous dis aujourd'hui, le besoin est très, très important. Il y a des journalistes qui sont arrêtés, pas plus tard qu'avant-hier, il y a des journalistes qui étaient arrêtés à Lubumbashi. Quand vous allez à Tchikapa, partout là-bas. Mais il faut dire aussi qu'au niveau des journalistes, ils ne savent pas comment présenter l'information. Ils commettent aussi beaucoup de bévues. mérite parfois d'être. Et un autre dit, mais pourquoi vous avez dit ça? Lui-même ne sait pas pourquoi il a dit ça. Donc je crois que la formation me paraît très cruciale pour notre profession.
Monsieur Isaïe Moutana, c'est sur cette procédée. Alors on parlait de la place des droits de l'homme, je ne sais pas, sur la page, je ne sais pas comment ça s'appelle, est-ce que vous avez des rubriques des droits de l'homme, éducation civique, ou bien c'est plus politique?
Notre focus, c'est sur l'actualité politique. Pourquoi l'actualité politique? Parce que c'est elle qui intéresse le plus grand nombre de nos lecteurs. C'est aussi simple que cela. Et c'est là parce qu'il faut viabiliser nos entreprises, nos presses, qui sont aussi des entreprises à part entière, qui ont des charges. Et donc, pour avoir des annonceurs, il faut que le trafic soit plus ou moins élevé. On n'a pas de rubrique spécifique en matière de droits de l'homme. Mais nous nous faisons un plaisir de relayer systématiquement toutes les alertes de GED, parce que nous pensons en amont que c'est une information qui a été traitée et tout ça. Nous faisons plus ou moins confiance à GED. Alors quand GED dit qu'un journaliste a été arrêté, on prend le communiqué de GED, on en fait un chapeau sur le dedans, ou bien on publie le communiqué tel quel. C'est pour nous une façon de participer à la promotion, à la défense des droits humains, mais de manière systématique, de manière structurée, avoir un domaine où celui des droits de l'homme, non, on ne s'en occupe pas, hélas, parce qu'on n'a pas assez de personnel. Le peu de personnel qu'on a, ils sont affectés au desk politique et au desk économique. Et maintenant là, nous avons aussi quelqu'un qui va s'occuper exclusivement du desk sportif et culturel, des matières qui intéressent les plus grands nombres de Congolais. Donc, c'est une question de réalisme, mais voilà. Mais au fil du temps, nous allons couvrir aussi, nous aurons aussi affaire le droit de l'homme.
Oui, très bien. Merci. Je me disais, on va accorder la parole sans me l'accorder. Finalement, il m'arrive.
Maître,
on a parlé du contenu des émissions. En fait, c'est le travail même des journalistes. Mais aujourd'hui, les cahiers des charges du gouvernement dans cette secteur-là parlaient de 60% des productions locales. Est-ce qu'on évalue même ce que c'est une production, ce que ça produit? C'est déjà un problème. Donc, du coup, on fait le cours facile. Qu'est-ce qui est facile? C'est les émissions à téléphone ouvert, les gens parlent, sans thème, sans sujet, comme ça, on apporte tout pour couvrir l'espace. Aujourd'hui, la production locale, c'est inexistant. Dans le contexte, dans son contenu réel, face aux réalités que nous avons sur le terrain. Comme vous l'avez dit, malheureusement, celui qui devrait réguler ce secteur-là n'a pas assez de moyens. Le CSEC n'a pas eu de chance, puisque en réalité, à part les budgets, à part le gouvernement qui soutient, il devrait avoir la possibilité d'avoir le financement auprès des bailleurs. Certains de ces domaines devraient être couverts par l'appui des bailleurs. Quand on se réfère à la HAM a fonctionné avec pratiquement 20% des fonds locaux et les 80% c'était les bailleurs. Et maintenant, rester dans cette logique-là de 20% pour couvrir les 100% sans appui des bailleurs. C'est là où ça fait des fois aussi les voir, cette politique-là, d'aller vers les bailleurs. Il ne faut pas les attendre. Il faut aller vers eux.
Oui, Madame Élisée, les médias et les femmes, quelle est la place des médias par rapport aux droits de la femme, par rapport aux droits politiques? Est-ce que aujourd'hui, lorsqu'on voit les institutions publiques, est-ce que la femme a une représentativité? Est-ce que la femme est dans la société civile? Est-ce que les femmes sont actives ou bien elles restent passives?
Moi, je crois que le grand problème, le premier problème, c'est que la femme comprenne elle-même d'abord ce qu'elle est, ce qu'elle vaut, ce qu'elle veut. Très peu de femmes osent. C'est ça le grand problème. Celles qui osent, souvent, elles ne sont pas entendues. Parce qu'il y a aussi le côté macho, excusez-moi, des hommes Le président tout à l'heure là, il a cité l'exemple de la RTNC. J'ai souri parce que j'ai passé une bonne partie de ma carrière à la RTNC. Je sais comment les femmes sont instrumentalisées parfois dans des structures comme la RTNC. Ne fût-ce que pour accéder à un stade qui lui revient de droit. Il y a aussi des femmes qui se laissent faire. Mais combien osent dire non? Et seulement ainsi, elle pourra se faire entendre et avoir sa place.
Est-ce que les médias arrivent à réveiller, à conscientiser les femmes sur leurs droits politiques, leurs droits en tant que...
Nous avons parlé de droits tout à l'heure, là, on a dit que le Congolais ne connaît pas ses droits. Et dans le Congolais, il y a aussi la femme. Très peu de femmes, d'abord, ont accès aux médias parce qu'elles ont autre chose à faire. Pendant qu'on parle d'elles, à la radio, à la télévision, pendant qu'on a écrit sur elles, elle n'a pas le temps de lire, elle n'a pas le temps de suivre la radio, elle n'a pas le temps de suivre la télé. Et souvent, elles viennent pour « Ah, ma bonne femme, c'est là que a bien. » C'est tout ce qu'elle sait. Mais est-ce que dans ce théâtre-là, dans Mamboke, on a appelé Tokonini? Peut-être qu'on a parlé d'elle sur un sujet, mais elle a manqué. Il faudrait peut-être essayer de sensibiliser la femme. Et là, je vois parfois certaines ONG qui vont vers les femmes, qui essayent de sensibiliser. Mais combien prennent conscience? C'est ça aussi le problème. Donc, le grand problème, c'est dans la tête de la personne. Moi, je crois que c'est ça.
Ok, sensibiliser la femme, Madame Sylvestre, vous avez collaboré avec Internews pendant 7 ans. Est-ce que vous pensez-vous que le PDCM par le BNR a aidé les médias à pouvoir informer les femmes sur leur rôle? Et toi, c'est vite. Comme bien vous voyez aujourd'hui, l'apport du PDCM dans la sensibilisation de la femme.
Bien sûr, le PDCM a beaucoup aidé l'Union Congolaise des femmes des médias à former la femme. Au départ, on a commencé avec le PDCM en 2006, où on avait mis des moyens à notre disposition pour nous permettre de mettre en place un répertoire des femmes, parce qu'on avait constaté qu'après un monitoring, il y avait la femme ne prenait pas part dans les débats publics, et on a approché les médias pour leur demander pourquoi les femmes n'étaient pas plus impliquées dans les émissions, dans les débats publics, et les médias nous avaient dit qu'il y avait un problème quand on tendait le micro aux femmes. Les femmes n'arrivaient pas, ne voulaient pas parler, et on cherche ces femmes-là pour les faire intervenir dans nos débats, on ne les trouve pas. C'est comme ça que, avec l'appui de PDCM, on a pu mettre en place un répertoire des femmes de source de différents domaines, qui a quand même permis à beaucoup de médias de faire évoluer ou de faire avancer la participation de la femme dans les différentes émissions, dans les différents programmes, dans leurs différents programmes. Et il y a eu aussi des formations avec le fonds de PDCM. PDCM nous a permis de former les femmes, de former les sociétés civiles sur la participation politique de la femme, parce que c'est des questions qu'on implique plus les femmes à intervenir à tous les niveaux politiques de la vie, de la société, de la RDC. Et on a multiplié des formations par rapport à ça auprès de la société civile. Et la même société civile devait aussi aller à la base pour essayer de sensibiliser la femme sur les questions d'enrôlement, sur leur droit à l'élection, des choses comme ça.
L'implication de la femme congolaise par rapport à les médias et la femme congolaise, comment est-ce que vous
vous appréciez cela?
Bon, moi, je vais parler parce que je suis un formateur avec le COFEM. J'ai participé à plusieurs formations que j'ai animées. Par rapport aux femmes des médias, la situation a beaucoup évolué. Si on regarde avant, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui sortaient du lot, c'était juste des petites présentatrices. Quand je dis petite, ça veut dire expression, ça veut dire on l'avait juste pour présenter. Mais de plus en plus, les femmes dans les médias font des productions qui valent. Dans les domaines tels que la santé et tout. Quand je travaille déjà dans la santé, la plupart c'est les femmes. Pour la plupart, c'est les femmes qui sont là-dedans. Dans certains domaines, on trouve de plus en plus. Elles sont plus actives qu'avant. Je crois que dans les médias, la Balonnaise commence un peu plus à prendre. Elles ont compris aujourd'hui qu'elles peuvent s'exprimer comme dans les médias, ainsi de suite, le travail est fait. Le travail, le problème qui se pose, moi, c'est entre ce que font les médias, les femmes des médias. Comment cela se répercute sur la base? Est-ce que les autres femmes comprennent que ce pont des médias, c'est pour les attirer vers le haut? Mais est-ce que ce pont-là a réussi? Est-ce que l'impact sur celles à qui cela est destiné comme des modèles, est-ce que cet impact est là? Est-ce qu'on peut le sentir? Comment faire en sorte que les femmes comprennent que nous, si ces femmes-là font ça, en fait, c'est pour nous appeler, nous, à aller de l'avant. Je donne un exemple dans la participation politique des femmes. Quand on regarde aujourd'hui les partis politiques, il y a, je crois, 4 ou 5 partis politiques qui ont comme responsable des femmes. Mais c'est des partis desquels ça croit sur le terrain comme un parti sur le terrain. Tu vois, c'est pas des partis qui ont une grande agriculture. Ceux qui ont mis peut-être l'argent là derrière, bon, c'est juste pour entretenir, mais c'est pas vraiment des partis d'agriculture. Est-ce qu'on peut aller vers ce type de programme qui permette vraiment de mesurer? Moi, je pense qu'il faut commencer par une étude pour mesurer vraiment quel est le niveau d'implication des femmes, par exemple, dans la vie politique et tout, avant d'arriver à faire un programme qui puisse parvenir à les faire sortir de là. Parce qu'on peut amener un programme, mais si déjà au niveau de la base, il y a un désintéressement, comme a dit... Notre ami, comme a dit aussi madame tout à l'heure, pendant que vous voulez faire un programme sur l'éducation civique, elle n'a pas le temps. Elle est peut-être au marché d'Amérique sans famille, et ainsi de suite, à ce moment-là. Tout ce qu'on va investir là-dedans, ça va donner quel impact. Je pense qu'il faut commencer par une petite étude, peut-être dans 2-3 domaines, dans le domaine culturel, dans le domaine tel, pour essayer de voir qu'est-ce que les femmes veulent, comment pensent-elles elles-mêmes aller de l'avant, et après cette étude-là, peut-être en ce moment-là, faire un projet qui puisse atteindre les besoins de ces gens-là. Sinon, parfois, on intervient. Dans les médias, c'est bon parce que c'est des gens qui sont ouverts, c'est bien, mais dans les autres domaines, je ne suis pas convaincu vraiment que les femmes, par exemple, du niveau de la base, comprennent exactement où on veut les mener.
En fond, directement, la collaboration entre les OSC et les médias.
Oui, voilà. Les médias ne prennent pas conscience qu'ils font partie de la société civile. D'où aujourd'hui, pour que lorsque vous invitez un journaliste, je ne sais pas moi, un média, c'est toujours question d'argent. Si vous ne le payez pas, il ne vient pas. Mais des fois, nous les invitons non pas pour qu'ils viennent couvrir, peut-être faire les deux, mais aussi pour participer. On dit toujours que c'est en forgeant que l'on devient forgeron. L'expertise ne tombe pas dans l'expertise s'acquiert avec le temps. Donc le fait de se brosser avec ceux qui connaissent, on finit aussi par apprendre. Donc le but c'est que ce soit les journalistes hommes-femmes, lorsque nous, société civile, nous les invitons, c'est aussi pour qu'ils apprennent. Et je pense que c'est ça le rôle peut-être que devrait jouer l'UNPC. Je connais. C'est ça aussi. Donc aujourd'hui, par exemple, le professionnalisme des journalistes occidentaux, c'est ça. Ils sont là. Il est journaliste, mais il connaît les finances publiques. L'autre est journaliste, il connaît l'environnement. Ça permet à ce qu'il soit expressif. Mais s'il ne connaît que les médias, il ne connaît que la ligne, je ne sais pas moi comment vous appelez ça, mais il ne dira rien. Il sera là seulement pour couvrir l'événement et après il va rapporter. Peut-être des fois même sans commentaire. Donc il rapporte tel que ça a été. Non, c'est la spécialisation
qui compte.
Oui, au-delà de ça, je crois que la spécialisation est importante. Donc, le rôle entre la relation entre société civile devrait aller au-delà de couverture médiatique.
Oui, président.
Je crois que jusqu'à preuve du contraire, les médias qui sont déjà de la société civile accompagnent la société civile. Mais je me dis que la plupart des branches qui font des événements dans la société civile doivent être en mesure de publier, de communiquer de leurs activités. Et souvent, quand l'information arrive à la presse, en tout cas, le journaliste n'a jamais marchandé cette information. Et quand vous organisez, il faut inviter les journalistes et ils viennent toujours. Et quand ils rentrent, ils font des reportages. Mais non par rapport à la spécialisation. La spécialisation, d'une manière générale, relève de chaque organe de presse. Et ça dépend de ce que veut cet organe-là.
Média et assuré aussi. Et société civile.
En 2011, la Fédération organisée une série dédiée au journal intitulé Amélioration de la communication entre les journalistes et société civile. Il s'est dégagé des constats. Il y a un problème de confiance entre les deux. Les journalistes disent que la société civile, dans tout ce qu'il a comme financement, il y a une rubrique prévue pour la communication. La société civile dit, nous n'avons pas d'argent pour payer les reportages. Il y en a qui vont même plus loin, à la fin du programme, ils viennent dans des rédactions et c'est pour faire une facture de $300, vous prenez $50. Alors, c'est là où les journalistes à dire, pourquoi ils doivent faire gratuitement un travail qui, au préalable, était prévu avec un financement. L'homme de la société civile veut avoir les résultats prévus sur son programme, mais sans utiliser les fonds affectés pour ces résultats. Ça, ça déclenche déjà les premiers conflits entre les deux. Mais en réalité, si au départ, il y a un dialogue entre l'ONG et les médias plus proches de lui, je crois que le problème d'argent serait le second problème. Puisque les journalistes, là je parle pratiquement d'abord des radios communautaires, entre autres missions, c'est de donner l'information, de servir sa communauté pour l'information. Donc il est capable de venir prendre l'information et aller diffuser ça sans trop demander, puisque ça fait partie de ses attributions, de ses missions en tant que communautaire. Mais là où ça plaît, si je l'ai fait la première fois, et qu'ensuite vous venez me dire, moi je l'ai fait gratuitement, mais vous venez me voir après pour me dire, non, écoutez, nous aurons besoin d'une facture de communication de tout ça. Qu'est-ce que vous me donnez comme information? Mm-hmm. Et comment je vais me comporter demain face à vous?
Collaboration média et société civile, c'est vrai que dans sa première phase, Internews a plus travaillé avec les médias, et spécifiquement les médias communautaires, mais dans sa deuxième phase, il a quand même approché la société civile. Comment est-ce que vous avez jugé l'action d'Internews du PDCM par rapport au rapprochement, collaboration, médias et société civile? Oui, en vrai.
Cette collaboration, le problème maintenant se pose à quel niveau? Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, organisation de la société civile, parfois, qu'est-ce que nous attendons des médias? C'est aussi la question qui devrait se poser. Et c'est là où ça peut poser un problème. Il est technique qu'on dit avoir des médias déjà gagnés. Médias gagnés, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'on vient, le média ne vient pas comme un simple reporter, mais c'est comme participant. Prenons maintenant, nous discutons et nous avons des médias avec nous et qu'à l'issue de ces débats, qu'on attende que les mêmes médias qui ont participé, effectivement, font passer ce que nous sommes en train de discuter. Mais la difficulté aussi, c'est quoi? Ces journalistes que vous avez invités pour discuter, pour participer, son organe qui est commercial pense qu'au retour, il a reçu de l'argent. Et pour faire passer ce que lui a participé, et ça pose problème. Et autre point de collaboration qui choque, c'est que, par exemple, aujourd'hui, pourquoi nous arrive des fois, vous voyez l'appel, vous fermez. Le journaliste vient, il vous accorde l'interview. Je donne un cas pratique. Aux participants au café presse, au niveau de la GEP. Le journaliste vient, bon, comme participant, il vous accorde les micros pour vous poser des questions, comment ça s'est passé, et finalement il vous dit, écoutez, nous on n'a pas été pris en compte par GEP, est-ce que vous ne pouvez pas trouver quelque chose pour nous? Il dit, mais je ne l'ai pas. Mais le lendemain, c'est chaque jour le téléphone qui sonne. Mais notre cas. Il dit, mais madame ou mademoiselle, mais votre cas, vous étiez là, est-ce que moi je vous ai invité? Et ça devient déjà un conflit. Pour qu'à chaque instant, vous devez résoudre parce qu'il vous a accordé les micros pour parler. Donc c'est aussi ça, il y a. On ne sait pas comment sortir de ce cercle vicieux où souvent les journalistes pensent que l'organisation de la société civile a de l'argent et qu'il doit dépenser. Et si chaque jour, quand je vois, si chaque jour je dois passer dans les médias, mais je dois dépenser plus de 200-300 $, et à chaque instant, vous trouvez que ça devient à un certain moment asphyxié et que vous commencez même à rejeter certaines invitations parce qu'après, ça devient une dette. Et or, nous disons toujours, les journalistes, on ne blague pas avec lui. Parce que ce sont des gens qui nous créent et ce sont aussi des gens qui peuvent nous enterrer. Et que si vous ne traitez pas bien, ça pose problème. Or, vous n'avez pas toujours l'argent. Donc, il y a lieu de voir cette collaboration-là, c'est à quel niveau et comment ça doit se passer.
Est-ce que le PDSM a aidé ce rapprochement?
Bon, le PDSM, je peux dire que oui, dans ce sens, c'est qu'aujourd'hui, je prends ce qui nous concerne, Collectif 24, je pense bien que avec les organisations, les organismes de la, des médias, il y a même ces rapprochements. Mais il y a toujours quelque chose qui manque. Et ce qui manque, c'est de voir relayer facilement ce que vous êtes en train de faire ensemble. Je prends un cas plus concret. Lorsque on était dans une collaboration avec un journal, avec OMEC, les choses passaient. Mais une fois que le financement est fini, mais vous posez la question aux femmes, mais pourquoi, par rapport au plaidoyer pour la loi, pourquoi il n'y a même pas un petit espace là où vous faites passer? Là, vous dites, mais donnez de l'argent. Nous sommes une société commerciale, donnez de l'argent. Mais là, on faisait parce qu'il y avait un financement, mais maintenant, il n'y a pas de financement. Nous, comment nous allons faire? Donc, il y a aussi ce problème d'appropriation pour voir qu'est-ce qu'il faut. Et c'est là où ça pose problème.
Je vais vraiment en deux petites minutes. Il y a un grand problème, c'est quelle est la mission des médias. Je vais vous dire pourquoi ça ne va pas marcher aujourd'hui si on ne change pas de fusil d'épaule. La société civile, toute la société, demande aux médias d'être indépendants, d'être neutres. Mais les ONG sont engagées, ce sont des activistes. Les journalistes ne sont pas des activistes. Ils ne peuvent pas être activistes. Sinon, le président qui est à côté, il va le condamner. Est-ce que tu as bien fait ton travail? Autrement dit, est-ce que tu as fait ce travail en toute indépendance? Si vous voulez que je ne sois pas indépendant, vous payez votre espace. Et puis, c'est ça le raisonnement du journalisme. Comme tu as donné de l'argent, en ce moment-là, ok, ton activité va passer. Mais si tu veux que je sois indépendant, c'est à moi de choisir si je veux passer ça sous quelle forme. Et donc, ne me demandez pas d'entrer dans votre activité pour que je passe la revendication comme vous le faites. Je viens à une marche, la marche a pour but, par exemple, de réclamer de l'eau, comme fait Lucha, n'est-ce pas? Je parle d'un truc social. De l'eau pour les gens de Goma. Je viens à cette marche-là. Si le sujet intéresse ma rédaction, c'est le sujet social, j'en parle. Si la rédaction me dit, bon, c'est affaire d'Audi, on en parle toujours, ça ne change pas. Bon, qu'est-ce que je fais à ce moment? C'est ça leur travail. Ne leur demandez pas de marcher comme vous. Quand on arrête tous les jeunesses et tout et tout. Quand on l'arrête, lui, Jeanne va dire qu'on a arrêté les jeunesses en plein effet de ses fonctions. Mais si toi, on t'arrête comme Lucha parce que tu as marché, tu auras aussi une autre raison. C'est ainsi qu'il faut vraiment faire la différence. Les journalistes sont de la société civile, c'est clair. Mais leur travail leur demande d'être un peu plus détaché de l'engagement citoyen. Ne leur demandez pas tout le temps d'être engagé. Il y a des causes pour qui ça, il y a des causes où vraiment ils restent un peu en dehors pour regarder parce que même s'il va marcher, il ne peut pas donner seulement la parole à l'opposition. Il faut aussi l'entendre les autres. Ça lui permet d'équilibrer, de voir que son travail est fait de manière plus ou moins, je ne dis pas que c'est équitable, plus ou moins il fait cet effort. Mais alors, si vous vous attendez à ce qu'à la fin de l'activité, il dit seulement tout ce que vous avez fait, qu'il vous donne seulement raison et tout ça, parfois ça marche, il s'est dit non, mais je ne peux pas épouser tout le temps son point de vue. Il fait ses activités, c'est vrai, mais moi, j'en ai parlé deux fois. Je pense que ça suffit la troisième fois. Je pense que je n'en parle pas. C'est comme ça que parfois, ces choses-là ne marchent pas. Il faut vraiment qu'on arrive à déterminer quelles sont les activités qui méritent d'être accompagnées par les médias. On les amène. Mais ils n'amènent pas tous les mois au même type d'activité. Ça s'est fait à 10 ans. Et puis c'est à Bongafula. Et il va en parler tous les mois. Il dit non, non, c'est la même activité qui s'est passée. On sait qu'ils ont fait l'activité. Après, ils n'en parlent plus.
Okay.
C'est un peu cela.
Oui, concernant la collaboration entre les organisations de la société civile et les médias, nous avons bénéficié du financement d'Internews sur les PDSM. On a organisé pas mal d'activités à Kinshasa, Lubumbashi, Kasai, Bukavu, Goma. C'était
il y a
sur
Kasai.
Ah bon,
il y a Kasai.
C'était Mbujimayi plutôt. Mbujimayi, Goma, Bukavu, sur la protection des journalistes, puisque j'ai de son action sociale, c'est la promotion et la liberté de la presse. Donc, sur base de ces financements, on a quand même lié à côtoyer des journalistes. Mais si je reviens, c'est que Henri a dit, quand on invite les journalistes, c'est pour leur permettre aussi de vulgariser. Mais il se fait parfois des journalistes, quand il est invité, il se fait aussi invité. Parfois, on a un budget pour peut-être 20 personnes, mais quand ce genre au nombre de 30, donc ça pose un problème. Quand on dit non, vous n'êtes pas concerné, non, mais j'ai participé. Donc, voilà le problème. Et puis, pour divulguer même un participant, il demande parfois la couverture médiatique. C'est vraiment un problème.
Alors, président va devoir clôturer notre échange de ce jour.
Bien, merci beaucoup, maître. Par rapport aux journalistes qui demandent de l'argent pour les reportages, vous savez que c'est une situation générale. Nous l'avons dit et nous le répétons tous les jours. Le journaliste, dans beaucoup de rédactions, n'est pas salarié. Et quand vous lui demandez de revendiquer le contrat de travail, il estime que non, il ne peut pas le faire parce que s'il le fait, il va perdre, pas l'emploi, mais l'occasion de se faire l'argent. Il se fait l'argent comment? Par ce que nous appelons chez nous le coupage. Et ça pose un problème à ce niveau-là. Et lorsque quelqu'un de la société civile organise une manifestation, il prévoit ce qu'ils appellent, comment vous appelez,
le transport.
Il prévoit le transport pour le journaliste. Et comme il a dit souvent, il y a des gens qui n'étaient pas invités, mais qui viennent à la manifestation. Mais moi je dis toujours, parce que souvent il y a des plaintes qui arrivent, je dis toujours, si vous n'avez pas invité quelqu'un, ne lui donnez rien. Dernièrement, il y a un ministre là qui avait organisé et puis il s'est posé le même problème. Et quand ils sont partis, ils ont commencé à envoyer des SMS et insultant le ministre, le menaçant. Et le ministre m'a appelé. Président, mais vous voyez vos journalistes, qu'est-ce qui se passe? Il m'explique. Moi, je demande à M. Morel. J'appelle. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, président, mais ce ministre-là, il n'est pas sérieux. Pourquoi il n'est pas sérieux? Moi, je suis allé couvrir la manifestation, il ne m'a pas donné l'argent. Moi, je dis, mais est-ce qu'il vous avait invité? Oh, mais je suis à la recherche d'informations. Moi, je m'enlève, mais si vous recherchez l'information, vous n'avez pas besoin qu'on vous paye. Arrête, si tu, si j'apprends que tu l'as encore, tu as encore envoyé un SMS le menaçant, je vais te mettre à disposition la commission de discipline. Oh, président, excusez-moi, je ne peux pas le faire. Donc, c'est des choses comme ça. Si on est informé, on intervient pour calmer le jeu. Ils vont à la MONUSCO. Est-ce qu'on leur paye? Ils n'ont même pas de l'eau.
Merci à vous tous d'avoir les avoir consacré ce temps d'échange qui permet à ce que, après avoir évolué, que l'on puisse aussi comment recevoir des avis, des impressions de ceux qui nous ont accompagnés durant l'exécution de ce programme. Cela va nous aider à pouvoir comment clôturer. Nous l'avons fait au début du programme et là nous faisons à la fin. Le PDC vous remercie et vous aurez aussi l'arrivée qu'il y ait un autre programme sous une autre forme parce que le PDC a été déjà clôturé. Donc on va continuer la collaboration tout en améliorant et en vous ayant vraiment à nos côtés. Merci.
Merci. Merci.